Nous ouvrons ensemble la parole de Dieu. On l'a fait déjà avant notre temps de prière, donc c'est le même texte. Jean 6, nous allons seulement lire quelques versets au cœur de ce que je vais partager. Vous allez voir, c'est un peu spécial. On commence avec ce passage-là, mais je vais y revenir un peu plus tard dans le message. J'ai quelque chose, des éléments que je vais vous donner qui viennent de d'autres endroits de la parole de Dieu. Mais on va vraiment toucher à ces versets qu'on va lire maintenant. Un peu plus loin dans le message, c'est très important par rapport à ce qu'on va considérer ensemble. L'espérance des affamés, y a-t-il des gens que ça a un peu de quoi qu'on va parler? Bien, on va parler de ça. Avant, on lit dans Jean 6, on va lire les versets 51 à 58. Donc Jésus ici qui parle et dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » On te remercie, Seigneur, que tu es le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Et merci que on peut prendre part pleinement à cette vie. Pour tous tes enfants ici, Seigneur, tu veux nous amener jusqu'à au point de saturation, qu'on soit pleinement satisfait en toi, Seigneur. Et tu veux aussi que ceux qui ne te connaissent pas goûtent pour la première fois à ta grâce, qu'ils goûtent comment tu es bon et qu'ils n'en reviennent pas, qu'ils en soient ébahis. Et Seigneur, c'est notre prière ce matin, s'il y en a qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent venir à te connaître, toi, le seul sauveur. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, on l'a chanté, on veut entendre ta douce voix. Prépare nos cœurs, dispose-nous, Seigneur. C'est à toi qu'on s'attend. Et on te le demande au nom de Jésus. Amen. L'espérance des affamés. On a ici un passage que je vais, comme je vous l'ai dit, va prendre le temps de vous l'expliquer. Mais avant de vous l'expliquer, je voudrais juste vous l'illustrer pour aider un peu à en extraire le sens. Vous savez, bon, c'est vraiment pas le temps de parler de Noël. À part, c'est-tu le Noël du campeur au mois de juillet, bientôt, à quelque part, là? C'est au Québec, là? Ah, bon, OK. Fait que, peut-être que vous avez eu l'expérience quand vous étiez jeune, ou est-ce que, bon, vous étiez un enfant, puis qu'on sait que, hein, quand le Noël arrive, on espère avoir des cadeaux. Puis là, peut-être que, je sais pas si ça vous est arrivé, mais un jouet en vogue, ou un jouet que vous vouliez donc, tu sais, un train électrique, ou je sais pas trop, une auto, la Barbie qui parle, la poupée qui fait toutes sortes de bebelles, là. Puis là, vous attendiez à l'avoir, et oui, vous l'avez eu. C'est bien ce qui était pour vous. Vous avez déchiré l'emballage de façon tout à fait enthousiaste et dans l'attente, et votre attente n'a pas été déçue. Vous avez eu le cadeau. Mais vous êtes aperçu par la suite que ouais, ça marche pas aussi facilement que je pensais. Il faut tout de suite les instructions. Puis, dans le fond aussi, vous êtes rendu compte que vous tenez plus vite que vous pensiez du dit cadeau. Bref, vous avez été déçu. Beaucoup de chrétiens se sentent de cette façon exacte, cette façon précise, avec Jésus qui promet la vie. Il parle de la vie éternelle, ça a l'air quelque chose de loin pour les autres, pour ceux qui sont spirituels. Puis eux, ils ont dépanné le cadeau, puis d'ailleurs, il me semble que c'est pas aussi excitant que ça promettait dans la publicité. Là. Et là, c'est plus grave. On parle pas juste d'un petit cadeau, on parle de Dieu lui-même. Donc, si on est déçu par rapport au cadeau que Dieu donne, la vie éternelle, ben là, là, on parle du caractère de Dieu, sa personne, son œuvre. Lui qui a promis la vie éternelle et en abondance. On l'a vu la semaine passée, hein? C'est toutes des promesses, on a vu ça, les cinq promesses que Jésus a lui-même dit lors de son ministère terrestre. Même qu'on voit dans Éphésiens 1:3, hein, qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais pour certains, ça semble bien lointain. Et sans équivoque, la part de Dieu, on l'a vu, hein, elle est faite, elle est accomplie. Ces bénédictions sont des faits. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été crucifié avec Christ, vous avez été enseveli avec lui, vous avez été rendu à la vie. Dieu vous a donné sa justice, vous êtes accepté, aimé, vous êtes dans le bien-aimé. Tous vos péchés, passés, présents et à venir, sont lavés dans le sang de Jésus. Vous avez maintenant une nouvelle identité. Vous êtes un saint. Dieu vous regarde avec toute la faveur, tout l'amour dont il regarde son propre fils Jésus-Christ. Et ces choses sont les plus grandes et les plus précieuses promesses de la parole dont nous parle 2 Pierre au chapitre 1. Mais des fois, on dirait que on n'en apprécie pas toute la valeur aussi grande soit ces réalités, ces bénédictions que Dieu nous donne en Jésus-Christ. En fait, il faut simplement comprendre que ces bénédictions sont le fruit d'une relation vivante avec Dieu, le Sauveur. Et ces fruits sont expérimentés, sont vécus en proportion de notre désir, de notre soif, de notre espérance en tant qu'affamé de Dieu. Ou pour le dire dans les mots du psaume 63 que j'aime tellement, j'ai déjà prêché là-dessus, je pense que ça fait peut-être un an. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » Pas juste tes bénédictions, de toi. « Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Donc, c'est pas juste des dons qu'on veut. On veut celui qui est la source de tous les dons, la source de toute espérance. Et c'est ça l'idée de l'espérance des affamés. Si on a faim, si on a soif de Dieu, c'est une espérance qui ne sera pas déçu. Ou pour le dire autrement, enfin nos attentes peuvent être comblées par le Dieu de toute grâce. Et le message de la grâce est par rapport à un Dieu qui ne déçoit jamais nos attentes. Le problème, et on l'a vu la semaine dernière, et on va pousser un peu dans le même sens encore cette semaine, c'est que malheureusement, nous ne nous approprions pas toujours ces appropriés, ces promesses, ces bénédictions que le Seigneur nous offre. C'est ça, l'espérance des affamés. C'est cette espérance qui dit, il y a sûrement plus à la vie chrétienne. J'espère que je ne suis pas en train de manquer le bateau. Que ces belles promesses de vie, de liberté, de joie, de repos, de vie abondante en Jésus-Christ, c'est pas juste pour plus tard, c'est pour maintenant. Vous savez, si on a ces attentes envers Dieu, c'est des attentes légitimes et c'est des attentes que Dieu peut combler parfaitement. Il a déjà absolument tout pourvu. On va simplement voir avec notre message trois clés pour combler les attentes de ceux qui sont affamés. D'abord, la première clé, il faut être guidé pour combler nos attentes. Il faut être guidé pour combler nos attentes. Il y a un passage, on l'a vu aussi il y a quelques semaines, avec Philippe qui avait couru jusqu'à l'Éthiopien, qui lisait le prophète Ésaïe, et Philippe lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Puis il lui répond, l'Éthiopien, l'Eunuque, répond « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Bien, de la même manière, pour vivre la vie échangée, pour vivre cette vie de « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ou, pour le dire dans les mots de 2 Pierre chapitre 1, cette vie qui nous comble pour vivre tout ce qui contribue à la vie puis à la piété, on doit être guidé pour pouvoir la vivre. Et si Dieu, le Saint-Esprit, ne nous guide dans cette vie, ben, ça va être en vain. Pourtant, il a promis de le faire. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, il a dit, quand le Consolateur, ça c'est le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, être guidé, c'est pour ça que la saine doctrine est importante, parce que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, dans la vérité de la parole, dans la saine doctrine. Mais là, ça peut sonner, comprenez bien ce que je veux dire, mais ce n'est pas une fin en tant que telle, la saine doctrine. Comme un cadeau sans instruction ne permet pas de jouir de ce cadeau, on ne sait pas comment s'en servir, bien demain, les diverses grâces de Dieu, les bénédictions de notre Père, duquel il n'y a ni changement ni ombre de variation, ne peuvent être expérimentées sans celui qui nous les a données. Ce n'est pas un cadeau qui est fait juste pour nous donner de même, puis Dieu met ça sur nos genoux comme ça, puis amuse-toi. Non, c'est un cadeau qui s'expérimente par celui qui l'a donné, par une relation vivante avec lui. Écoutez, un verset extraordinaire de la parole. Ça, je pense que c'est un verset négligé. Je pense qu'on va partir une protestation chrétienne pour dire que ce verset-là, il faudrait plus qu'on l'apprécie. OK? Romains 5, 17, juste si je vous dis la référence, Romains 5, 17. Tu sais, c'est pas comme Jean 3, 16 ou Galates 2, 20. Romains 5, 17. Vous voulez où je vous lis? Vu que je vous ai un peu attisé la curiosité, là. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, ça parle d'Adam, à plus forte raison, un contraste. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Romains 5, 17. Ça parle de l'abondance de la grâce et de la justice et de régner dans la vie. Ça, c'est un peu l'équivalent de la vie abondante. Jésus qui est venu donner la vie abondante, ben, il y a un règne dans cette vie, le règne de la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais c'est important aussi de noter la fin du verset où est-ce que ça dit « par Jésus, lui seul ». Tu sais, comme c'est pas assez de dire « par Jésus, là, juste lui, là, par l'exclusivité de Jésus-Christ ». C'est important à saisir parce que ce « par Jésus, lui seul » ici nous explique que dans le fond, le comment à être guidé pour combler nos attentes, bien, le comment, c'est un qui. C'est par Jésus. C'est pas avoir la bonne recette, tout savoir comment faire, c'est aller à la bonne personne. Être guidé pour combler nos attentes, c'est aller à celui qui guide, c'est aller au guide. C'est pas juste avoir la carte dans les mains, c'est avoir le guide direct qui marche avec nous autres. Moi, je m'en vais dans l'Amazon, ou si je pars en excursion à quelque part, le Kilimanjaro, ou les endroits en Asie que je connais pas. Je veux pas pour vous, mais ma petite carte ou même un GPS, ça se compare pas à voir le gars qui est allé là, tu sais, 250 fois dans sa vie, qui connaît tous les raccoins, puis il connaît où est-ce qu'il y a des serpents par là, puis là, va pas là, il peut avoir des lions. Ouais. Ça, c'est pas écrit sur la carte. Fait que c'est tellement mieux d'avoir le guide. Ben, c'est ça aussi dans la vie chrétienne. La parole, la doctrine, elle est très utile et elle a absolument son but. Mais celui qui nous guide dans toute la vérité est indispensable. Sinon, on peut être là avec notre Bible dans les mains toute notre vie, puis pas en comprendre toutes les richesses, passer à côté de toute la bénédiction que Dieu a pour nous en venant à lui pour être guidé afin que nos attentes soient comblées. Donc ici, dans le verset qu'on a lu, tiens, je vais vous le relire, il est tellement beau. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus, lui seul? » Ici, ce que Paul fait, il prend la doctrine de notre union avec Jésus-Christ. Okay? Parce que Romains 5, c'est l'introduction à l'idée de notre union, parce qu'il contraste, on était unis à Adam, ça donne la mort. Maintenant, on est unis à Jésus, ça donne la vie. Il y en a un qui était le règne de la mort, avec Jésus, c'est le règne de la vie. Puis là, il continue à pousser là-dedans avec chapitre 6, 7, 8. Mais c'est vraiment dans Romains 5 que ça commence. Et Paul place ça dans le contexte d'une relation vivante avec Jésus-Christ. C'est pas juste une idée, c'est pas juste un concept, c'est une personne. Autant qu'Adam est une personne duquel on a eu toutes sortes de conséquences du fait qu'on était relié à lui, ben de la même manière, étant maintenant rattaché à Jésus par sa vie, ça a toutes sortes de conséquences, et là, positives, bénéfiques et constructrices. Maintenant, une image vaut mille mots. La fameuse affaire d'être guidé, là, puisque je viens un peu de vous parler. Au restaurant, qu'est-ce qu'on fait? N'as-tu commencé au restaurant il n'y a pas longtemps? OK? Qu'est-ce que vous avez fait en vous assoyant, là, puis là, la petite madame, elle vous offre de l'eau, puis ça? Vous avez ouvert le menu. Hey, c'est beau, hein, des menus. Moi, j'aime ça, des menus, parce que là, tu vois ça, puis ouh, là, il y a plein de belles images. Puis... on déguste déjà avec nos yeux, hein? Là, c'est fait, là, les... tu sais, c'est des photographes professionnels, puis là... Mais le menu, je veux dire, si on avait le menu à manger, on n'aimerait pas ça vraiment aller au restaurant. Hein? Le but du menu, c'est de nous amener à la réalité de la nourriture qui va être devant nous dans quelques instants, une fois qu'on a commandé, n'est-ce pas? Bien, la doctrine, le message de la grâce, c'est le menu. Jésus, c'est le repas. OK? C'est ça, de ça qu'on parle. C'est ça que Jean 6 communique. Il y avait toutes sortes de vérités dans la parole. Il connaissait la manne, puis il connaissait l'histoire de ceux qui avaient été dans le désert. Mais Jésus, il dit, c'est moi le repas. Vous avez vu le menu? Je suis le repas. OK? Et c'est seulement, puis ça, c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut expérimenter de goûter toute la grâce de Dieu. On peut regarder le menu toute notre vie, mais on ne goûtera pas à la grâce de Dieu tant qu'on n'aura pas goûté à Jésus. Celui qui est la révélation complète de qui Dieu est. On ne peut pas avoir une relation avec une doctrine ou un message. Ça, c'est le pont qui nous mène avec celui qui est le sujet dessus de ce message-là, qui est la réalité que la doctrine nous présente. OK? Donc, juste pour vous amener un point là-dessus. OK? Ça vient... c'est une citation, OK? Je ne sais pas si qui a dit ça, mais c'est vraiment une bonne phrase. OK? Écoutez bien ça. Je vais la dire deux fois. Jésus-Christ s'est donné pour nous afin de pouvoir se donner à nous et ainsi vivre sa vie à travers nous. Je le répète, Jésus s'est donné pour nous, pour nos péchés, OK? Afin de pouvoir se donner à nous. Je ne veux pas penser, Jésus veut se donner à nous. Vous savez que ça, c'est la grâce de la vie chrétienne. On peut avoir toute notre vie essayer de se donner à Dieu. Jésus s'est donné à nous afin de pouvoir vivre sa vie à travers nous. Ça, c'est la grâce de justement comprendre toute cette idée-là d'être comblé dans nos attentes. Jésus s'est donné à nous. Il nous comble lui-même de toute sa grâce. Voilà pourquoi Jésus est le moyen par lequel la réalité de Dieu dans nos vies peut être vécue. Ceci étant dit, j'ai dit qu'on allait revenir à notre texte de Jean 6. Commençons d'abord avec le verset 57. Vous êtes là tout le monde, Jean 6? Regardez ce que Jésus dit. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Ici, cette déclaration de Jésus est à comprendre à travers la merveilleuse doctrine de l'incarnation de Jésus, la kénose. Comment Jésus n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais il a mis de côté des attributs divins et est venu habiter parmi nous plein de grâce et de vérité. Jésus nous amène à vivre par lui, tout comme il l'a fait lui par rapport au Père. Jésus est en dépendance constante au Père. Il lui donnait tout le contrôle. Bien, Dieu veut aussi qu'on fasse pareil. Puis, vous rappelez-vous, c'est par contraste. Si je veux contrôler, est-ce que je marche par la foi? Non, je marche dans la peur. Qu'est-ce qui va arriver? C'est soit la foi, c'est soit la peur. Jésus vivait constamment par la foi. Il n'y avait aucune peur. Il dépendait constamment du Père. Et de la même manière aussi, on est appelé à vivre par la foi. Et comprenons, quand Jésus ici, là, je veux vraiment l'expliquer parce que ça peut être mal compris. Ça dit, « Ainsi celui qui me mange vivra par moi. » L'expression ici, « manger Jésus ». C'est une expression de la foi, c'est prendre part. Ça n'a pas rapport avec l'Eucharistie, ça n'a pas rapport avec une espèce de transsubstantiation. C'est vraiment ici, les paroles que Jésus a dit sont esprit et vie. Et c'est vraiment l'expression de prendre part. Tu sais, c'est Jésus. Jésus, dans Jean, nous donne déjà les bribes de l'union du croyant avec Christ ici, puis aussi dans Jean 15. C'est vraiment de faire un avec lui, de se l'incorporer de ce que Jésus est notre vie. Je vais en parler un peu plus dans un instant, mais je voulais vraiment commencer à vous introduire à ceci. Mais juste déjà quand on entend ça, n'est-ce pas que c'est extrêmement provoquant? Non, mais ça sonne, c'est comme du cannibalisme. Il y a d'ailleurs des gens qui disent ça. Ah, Jésus a fait de la promotion du cannibalisme. Ça, ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, des gens qui disent ça, perdez pas votre temps à essayer de... Ben, vous pouvez leur parler, là, mais je veux dire, soyez pas troublés par ça, là. Non, mais parce que c'est des gens qui tordent les Écritures après, pour leur propre perdition, là. OK? Puis vous irez voir ce que Pierre a dit sur eux, là, il mangeait pas ses mots, OK? Bon. Ça, d'abord, ça, on vient de parler d'être guidé pour combler nos attentes. Guidé par celui, vers celui. C'est un qui, OK? Deuxième chose. Pour être comblé dans nos attentes quand on a l'espérance des affamés, c'est être, et là, écoutez bien, être initié à combler nos attentes. Et là, on va regarder le verset 51. J'ai une petite... une vérité ici que vous n'aviez peut-être pas vue, mais qu'on va prendre le temps de regarder dans les deux prochains points. On lit au verset 21. Jésus ici qui dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Le langage ici est important. Oui, ça peut être repoussant, ça peut être mal compris, mais ici, il ne faut pas manquer, Jésus donne une grande vérité, une leçon précieuse. C'est-à-dire que tout comme quelqu'un, si on ne mange pas de pain physique, qu'est-ce qui va arriver? On meurt. Ben, si on ne mange pas, si on ne croit pas à Jésus, le pain descendu du ciel, c'est la mort. OK? Il y a vraiment un parallèle ici. Si Jésus communique le sens précis, ça veut dire quoi? Si quelqu'un me mange, ça veut dire de croire en lui. OK? Parce que sinon, c'est la mort, c'est un parallèle. Vos pères ont mangé du pain, sont morts. C'était tout physique. Moi, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Croire en moi, c'est la vie éternelle. Voyez-vous le parallèle entre les deux? C'est pas tiré par les cheveux, c'est vraiment un parallèle entre le physique puis le spirituel. Un peu comme Jésus l'a fait avec la femme samaritaine par rapport à l'eau. Tu sais, il parlait d'eau. « Hey, donne-moi cette eau. » Puis même, enfin, ici, la réaction. « Hey, donne-nous ce pain-là. Donne-nous cette eau-là. » Eux autres, ils pensaient au physique. Jésus, lui, il référait clairement au spirituel. Les paroles qu'il disait étaient « esprit et vie ». OK? Bon. Maintenant, il y a le mot ici « manger » qui est un mot grec qui signifie, tu sais, le simple acte de manger. OK? À moins que je vous dise le mot, ça ne va pas vous dire grand-chose, là. Mais ce qui est important, c'est qu'il est dans un temps, ce qu'on appelle, c'est le temps aoriste. Ça veut dire que c'est une action passée et complétée, comme un mariage. Tu sais, nous nous sommes mariés à ce moment-là, c'est passé, c'est complété, un acte accompli, OK? Donc, celui qui me mange, celui, dans le fond, tu sais, qui a pris part, tu sais, c'est comme une fois, puis c'est arrivé, puis c'est un acte complété, puis c'est fini, OK? Ben ici, c'est là que Jésus amène son auditoire en commençant. La façon qu'il parle ici, il parle d'un acte de manger qui donne la vie éternelle. Savez-vous de quoi il parle? Il parle du salut. Il parle de prendre part à lui. Il parle de ce moment où est-ce qu'on est de nouveau. Dans le verset 51, c'est une référence au salut. OK? C'est un appel au salut. Maintenant, est-ce que vous autres, vous avez répondu à l'appel du salut de Dieu? Avez-vous pris part? Avez-vous goûté comment le Seigneur est bon? Avez-vous goûté, expérimenté sa vie? C'est prendre part à Jésus, c'est le prendre pour vous-même. Pas le Jésus de vos parents, pas le Jésus de votre époux, de votre épouse, de votre voisin, pour vous. Goûtez comment le Seigneur est bon. Puis en plus, il y a plus que ça, c'est aussi une référence à la sécurité éternelle des enfants de Dieu. Quand on est sauvé, c'est quelque chose de complété, c'est fait pour l'éternité, c'est un acte dont les conséquences sont éternelles. Parce que cette doctrine qui enseigne la perte du salut provient d'un évangile qui malheureusement est centré plus sur l'homme que sur Jésus-Christ. Parce que quand on voit dans la parole les références sur comment Dieu garde ses enfants, c'est assez clair. Je vous les lis en rafale. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute, ça c'est Dieu, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Aussi, Jésus a dit, et là vous connaissez, dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Donc, je vous ai lu Jude 24, Jean 10, et aussi 1 Pierre au chapitre 1. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est l'héritage de Dieu. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Voyez-vous comment c'est tout Dieu qui fait le travail de garder pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est clair que Dieu, puis tantôt aussi, c'est vrai, notre sœur nous a lu, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Et pensez-y, si Dieu peut nous sauver, est-ce qu'il peut aussi nous garder? C'est-à-dire, puis nous, si on ne pouvait pas se sauver, pensez-vous qu'on peut plus se garder? On ne peut pas se procurer la vie, on ne peut pas plus non plus soutenir notre propre vie. Tout est, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est réconfortant. La sécurité éternelle, c'est pas un prétexte à pécher puis dire, ah, vu que je suis sauvé, je vais faire n'importe quoi. C'est pour garder nos cœurs du fait que malgré nous, malgré nos chutes, puis Dieu peut nous préserver de toute chute, Dieu, c'est lui qui nous garde dans sa main. Ça réconforte, ça calme, c'est une bénédiction lorsqu'on le comprend comme il faut. Comme des fois, les gens vont dire, ah, si tu prêches trop la grâce, les gens vont faire n'importe quoi. Non, si les gens vraiment comprennent c'est quoi la grâce de Dieu, ça va faire le content. D'ailleurs, le témoignage de notre frère la semaine passée, c'est ce qu'il disait. Quand avec le, il se mettait lui-même sous un joug de sa propre loi, ben je vais faire ça, je vais faire ça. C'était terrible. Puis c'est ça la loi, ça nous aide pas à pas pécher, ça nous fait encore plus pécher. Parce qu'on se dit, je devrais pas le faire, puis on n'a pas la force de le faire, fait qu'on le fait encore plus. Mais quand on est saisi par la grâce de Dieu, on n'a même plus le goût. On n'a même plus le goût de faire ce qui déplaît à Dieu, puis on n'a plus... les mêmes propensions. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu change le cœur même. Puis on a le goût de faire aussi ce qui plaît à Dieu. Et voici pourquoi. Et là, je répète, ça c'est un clou sur lequel je veux frapper. Parce que lorsqu'on apprend à faire confiance à Dieu comme ça, Dieu chasse la peur. Chasse la peur de perdre le contrôle de nos vies. Pourquoi on a peur? Parce qu'on essaie de contrôler, parce qu'on veut contrôler. Mais si Dieu contrôle, pourquoi on aurait peur? L'amour parfait bannit la crainte. Si Dieu m'aime, puis il m'aime parfaitement, puis je suis dans sa main, puis il me garde, de quoi j'aurais peur? L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Quand je suis secure, je suis en sécurité dans l'amour de Dieu, ça chasse la peur de perdre le contrôle, parce que je sais que lui est au contrôle, peu importe ce qui arrive. Ça m'amène au troisième élément, la troisième clé pour combler l'attente des affamés. Non seulement être guidé pour combler nos attentes, non seulement être initié, et ça c'est le point du salut, mais aussi être saturé. Être saturé pour combler nos attentes. On a vu dans le verset 51 qu'il est clairement question du salut. Maintenant, considérons le verset 54. Et là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire ici. Jésus encore qui parle et qui dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie, vous n'avez point la vie en vous-même. » Et si Jésus ne fait pas juste se répéter, « Ah, j'ai dit ça avant, puis là, je répète exactement la même affaire. » Non. Premièrement, quand Jésus ici utilise le mot « mange », en français, c'est le même mot, mais en grec, c'est un autre mot. Qui ne fait pas juste se référer à l'acte de manger, mais l'idée de, bon, je vais le dire de même, s'empiffrer. Tu sais, quelqu'un que ça fait 3-4 jours qu'il n'a pas mangé puis qui arrive au buffet. Il a faim. Puis là, il va bouffer, il va se faire la grosse assiette, puis, OK? C'est le mot que Jésus emploie. Vraiment, là, manger comme un affamé. C'est ça que ça veut dire. C'est de là que le titre vient. OK? Et en plus de ça, le temps du verbe n'est pas aoriste comme un mariage, quelque chose d'accompli dans le passé, c'est le présent, c'est-à-dire constamment s'empiffrer. Jésus, c'est comme ça que je décris la vie chrétienne. Mais s'empiffrer, se saturer de lui. Amen. Tout est par rapport à lui. Et donc, clairement, le verset 51 parle du salut une fois pour toutes. Le verset 54 parle de la sanctification. Se saturer de lui. Constamment, continuellement. Et ça, c'est ça, l'essence de la sanctification. Voulez-vous une belle définition de la sanctification? Se saturer de Jésus-Christ. Empiffrer, ça fait un peu moins beau, là. Mais on pourrait dire que Jésus, c'est le mot. Jésus employait des mots, des fois, c'était choquant. Puis peut-être que, tu sais, si on était là, je suis pas un expert du tout, là, ni du grec, ni de la langue française, je suis pas un expert de grand-chose, là. Mais probablement que le sens de ce mot-là, ça pourrait se traduire avec justesse comme s'empiffrer, parce que c'est vraiment ça. Donc, l'essence de la sanctification, vous rappelez-vous, j'ai parlé, l'essence du péché, c'est quoi? Vous rappelez-vous, je l'ai dit il y a quelques semaines. L'essence du péché, c'est vivre indépendamment de Dieu. Combler mes besoins, légitimes ou illégitimes, indépendamment de Dieu. Bien, l'essence de la sanctification, c'est l'inverse. Combler mes besoins par Jésus, par lui. Ça marche ensemble. C'est pas pire, non, ça marche pas avec ça. Donc, Jésus s'est donné entièrement à nous pour tous les besoins de notre vie soient comblés parfaitement et constamment. Et je vais l'illustrer de cette façon-là. Ah, là, je n'ose pas dire ce mot-là, parce que là, j'espère que je ne vais pas avoir trop de réactions, mais les petits félins domestiques, vous savez comment ils mangent, hein? Vous savez comment ils s'approchent de leur assiette? Ils sentent, prennent une petite bouchée. C'est pour ça que j'aime. Oui, les chats, je trouve ça. En tout cas, je veux pas offenser personne, mais moi, je suis vraiment le type chien. Le chien, il arrive, lui, tu y mets la bouffe, il est tellement content. En fait, tu mets n'importe quoi là-dedans, là. Il se bourre la face, puis ça sort de tous les côtés, puis. Ben, on pourrait dire que Jésus, dans le fond, il décrit l'expérience initiale de Jésus d'y goûter comme. Un chat va s'approcher de son manger. Puis il dit, après ça, une fois que vous l'avez goûté, vous allez être comme le chien. Tu sais, on en veut, puis on se bourre la face. Ou on se sature de ce mets vivant en s'en donnant à cœur joie. C'est ça, la vie chrétienne. C'est l'espérance des affamés. C'est-à-dire, une vie où est-ce qu'il y a un flot constant qui est pourvu par le Dieu lui-même qui nous fait toutes les promesses, et il est lui-même ce flot constant, il est la source d'eau vive, il est le pain qui rassasie vraiment. Quel Dieu merveilleux! On peut toujours aller à lui pour être comblé. C'est ça le sens de quand Jésus a dit en Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire toutes sortes de bébelles, mais des choses éternelles qui ont une valeur éternelle, vous ne pouvez rien. » Et ça, c'est vraiment comme Jésus lui-même. C'était pas juste des paroles qu'il disait pour nous autres. Jésus lui-même a dit, en parlant lui-même, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Au verset 30 du même chapitre dans Jean 5, je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Et là, je vais vous amener à un point de conclusion important. Pourquoi c'est comme ça qu'on ne peut rien faire? Ça, on pourrait juste, tu sais, faire un échange avec Dieu, il fait un bout, puis on fait notre bout. Tu sais, pourquoi c'est juste Dieu, puis juste lui tout seul? Vous avez posé la question? Oui, pour la gloire de Dieu, oui. Mais aussi, pensez à ça. Parce que, on l'a vu, la vie chrétienne, c'est Jésus et lui seul. Le règne de la vie, c'est pas Jésus plus, c'est pas Jésus maître, c'est pas... Non, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus est le seul, pensez-le, Jésus est le seul qui a jamais vécu la vraie vie chrétienne. Il est la vie chrétienne. Essayez pas, n'essayez pas ceci à la maison. Essayez pas de vivre la vie chrétienne par vous-même. Ça va pas marcher. Il est le seul qui puisse vivre la vie chrétienne. Autant moi que vous, on n'a jamais vécu la vie chrétienne. Quand on a vécu la vraie vie chrétienne, c'est Jésus, c'est pas nous, c'est Christ qui vit en nous. Amen. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Et ça, c'est en proportion de notre foi, de notre confiance à le laisser vivre. Ou je vais redire le mot, le laisser contrôler. C'est là que ça la chope. Parce qu'on veut le contrôle. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est un... Je sais pas si vous dites ça en France, des control freaks, dites-vous ça l'expression? On est des bébites à vouloir contrôler. Ben la foi, c'est Dieu qui brise ça, la rédemption, c'est Dieu qui dans sa grâce nous délivre de cette propension à vouloir tout contrôler, puis qui nous donne cette grâce de lui contrôler notre vie. Puis ce n'est que du bon. Ce n'est que du beau. Puis je vous le dis, là. Je l'ai souvent dit, on est assis un beau dimanche matin, puis vous êtes un enfant de Dieu, dans vos cœurs, ça dit Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met ça en nos cœurs. On veut que Jésus vive sa vie pleinement, librement à travers nous autres. Et la foi, c'est de s'accrocher, de constamment s'accrocher à ça, ou comme je l'ai dit dernièrement, de se rappeler ce qu'on croit. De constamment se ramener à ceci. La vie, la vraie, celle qui comble nos attentes, c'est Jésus. C'est quand lui contrôle. Des fois, ça fait mal. Des fois, on est incompris. Je le disais tantôt dans ma prière, je me suis fait dire cette semaine, « Ah, les chrétiens, vous êtes fermés d'esprit. » Merci pour le compliment, c'est vrai. Tu es en train de me dire que je suis comme mon sauveur. Ben, Jésus, là, il a dit, « C'était pas pour moi, t'es contre moi, c'est celui qui croit à la vie, celui qui croit pas, il n'y a pas la vie. » C'est pas mal fermé d'esprit, merci ça. T'sais? Puis Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le monde a toujours dit que les chrétiens étaient fermés d'esprit parce que ils le sont pour le monde, parce que leur Seigneur, il l'est. Mais ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que, au bout du compte, ce qui importe, c'est de le laisser contrôler. Ça nous fait peut-être peur que les gens ne nous aiment pas. Ça fait peut-être peur de ne pas tout avoir les réponses, de ne pas tout savoir comment les choses vont tourner. Mais la foi est plus grande. Et ce qui vainc la peur dans notre vie. C'est vraiment ça. La question du contrôle, c'est de là. Pourquoi je laisserais le contrôle à Dieu? Parce que j'ai confiance que lui-même contrôle mieux que moi. Pourquoi je n'aurais pas confiance à Dieu? Parce que j'ai peur. Fait que c'est la foi ou c'est la peur? Maintenant, écoutez bien ce verset. Que Jésus a dit dans Jean 5. Ah, c'est merveilleux. Il parle aux leaders spirituels de son époque. Les scribes, les pharisiens. Vous sondez les Écritures, qu'il leur dit. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Vous êtes avec le menu, là, puis tu veux, il y a ça. Il y avait le menu, ils connaissaient le menu. Vous pensez avoir en elle la vie, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est vraiment comme le menu. Mais regardez ce qu'il dit dans le verset suivant, Jean 5, 40. Et vous ne venez pas, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils passaient leur vie assis dans le restaurant avec un menu, puis ils n'ont jamais eu une assiette devant eux autres. Puis j'espère que vous n'avez pas passé votre vie dans une église qui prêche Christ à juste avoir un menu devant vous, puis jamais goûter comment le Seigneur est bon. La vraie vie. Parce qu'on n'est pas ici pour un club social de divertissement des personnes. On prêche Christ. Puis si on prend un menu qui vous le présente, c'est parce que vous devez y prendre part. J'ai juste pas juste une idée puis un concept. Jésus, c'est Dieu. C'est celui qui nous a fait connaître le Père. Et maintenant, le Saint-Esprit est celui qui le publie, qui l'annonce, qui le proclame. Donc, si vous êtes ici sans Jésus, voici mon appel. Viens à Jésus. Viens à lui simplement. Je l'ai dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Écoutez ce verset des Écritures. Jésus encore dans Jean 7, beaucoup de versets dans Jean aujourd'hui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Écoutez aussi, et c'est ma conclusion. Et l'appel est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, autant que pour ceux qui le connaissent, parce qu'on l'a vu, on a toujours besoin de venir sous la source d'eau vive. Écoutez Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Seigneur, on vient à toi. On vient à toi, tu nous appelles. Tu es celui qui appelle les perdus, celui qui appelle tes enfants. Tu appelles toujours à toi parce que tu es la source infinie et constante de grâce, de vie. Et merci que tu l'as voulu ainsi. En toi est la vie. Seigneur, ma prière ce matin, c'est simplement qu'on puisse avoir la réponse de la foi. Toi qui calmes nos peurs, toi qui brises cette tendance à vouloir, à ce qu'on a à vouloir tout contrôler, qu'on te fasse confiance, plus qu'à nous-mêmes, qu'on te laisse le contrôle. Seigneur, je l'ai dit tantôt, on est dimanche matin dans l'église, on est bien disposé. Donne-nous la grâce, durant cette semaine qui est devant nous, de te faire confiance pour contrôler ce qui nous fait peur, ces attentes qu'on peut avoir, on ne sait pas ce qui va arriver, ou peut-être des attentes qui ont été déçues. Des choses sont arrivées et ce n'est pas ce qu'on voulait. On veut s'attendre à toi, Seigneur. Merci que nous avons tout pleinement en toi. La réponse à tout ce qu'on a vu, c'est simple, c'est toi. On vient à toi, Seigneur. Fais ton œuvre. Glorifie ton nom. Ce beau nom dans lequel on prie, le nom de Jésus. Amen.